Vous écoutez, on lit pour vous.
Devenir un homme. Un texte d'Alexandre Vigneault et Léa Carrier paru le 5 mai 2024 dans la presse. Le sentier étroit de la masculinité. On attend des garçons qu'ils soient différents de leurs aînés, plus ouverts, plus sensibles, plus respectueux et plus aptes à exprimer leurs émotions. Soutient-on suffisamment leur transformation? Il y a quelques années, Philippe Roy, professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, arpentait les allées d'un magasin de jouets. Ce qui a attiré son attention, ce n'est pas que les poupées et camions étaient classés selon un modèle encore très stéréotypé, mais les messages adressés aux filles et aux garçons. Du côté des filles, il y avait une bannière Barbie qui disait aux filles qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent, joueuses de soccer, juges, pompières, énumère-t-il. Du côté des garçons, qu'est-ce que vous pensez qu'on disait? Rien. Il n'y avait rien. L'anecdote est révélatrice d'un manque selon ces spécialistes des questions de masculinité. On encourage les filles à sortir du stéréotype et on ne dit rien aux garçons pendant ce temps-là, soutient Philippe Roy. Que font les garçons alors? Ils prennent les modèles qu'ils trouvent, notamment dans l'environnement médiatique. Or, sur les réseaux sociaux, il y a eu une résurgence de discours misogynes dans la culture populaire, musique, télé, cinéma, jeux vidéo, etc. Le modèle dominant demeure celui de l'homme musclé, plus prompt à l'action qu'à l'introspection. Ce modèle enferme les garçons et les met à risque, souligne Philippe Roy. Les études disponibles montrent une tendance lourde. Plus les hommes adhèrent au modèle masculin traditionnel, moins ils vont bien. Les normes sociales placent encore les hommes et par extension les garçons et les ados devant un dilemme, résume le chercheur. S'ils adhèrent de manière rigide au modèle traditionnel masculin, ils risquent d'avoir des problèmes de dépression, d'idéation suicidaire et de relations toxiques avec les femmes. S'ils vont dans la direction opposée et résistent fortement à ce modèle, ils prennent le risque d'être stigmatisés et ostracisés par les autres hommes. Ce réflexe d'exclure les garçons qui mettent le pied à côté du sentier de la masculinité traditionnelle commence très tôt. Dans le documentaire « The Mask You Live In », qui s'intéresse à la socialisation masculine, un intervenant affirme qu'à environ 5 ans, tous les garçons vont en pointer un autre si on leur demande qui est Momoun. Sissi en anglais, dans leur groupe. Gilles Tremblay, professeur retraité de l'École de travail social de l'Université Laval, raconte d'ailleurs qu'au même âge, l'un de ses petits-fils a fait rire de lui le jour où il est arrivé avec une boîte à lunch rose à la maternelle. Il n'a bien sûr plus voulu l'utiliser. Qu'est-ce qu'on aurait dit si une fille était arrivée avec une boîte à lunch bleue? Demande-t-il. Rien. Elle ne se serait pas fait dire qu'elle avait une boîte à lunch de garçon. Développer une masculinité positive. Orlando Seed et Jean Wedd-Collin, intervenant à la Maison d'Haïti à Montréal, pilotent un très rare programme destiné aux pré-ados et ados visant justement à déconstruire cette vision étroite et stéréotypée de la masculinité. L'initiative s'appelle simplement « Projet Gars ». Et offre un espace de discussion à des garçons de 10 à 17 ans qui fréquentent ce pôle communautaire du quartier Saint-Michel. Ici, ils savent qu'ils peuvent tout dire et qu'ils ne sont pas jugés, explique Orlando Seed. Le principe, c'est « ce qui se dit ici reste ici ». Autour de la table, les garçons sont encouragés à s'exprimer comme ça leur vient. Après, si ça a besoin d'être recadré, remis en question ou reformulé, on le fait. Mais la parole est libérée, précise Jean Wedd-Collin. Cette liberté de poser des questions et dire ce qu'ils ressentent, ils ne la trouvent pas ailleurs. La liste des sujets intéressant les garçons, inscrits sur une grande feuille déposée sur la table devant les intervenants, confirme la portée intime des discussions possibles au projet GA. Aux côtés de mots comme TDAH, religion, droit de liberté et autisme, on retrouve notamment plusieurs autres thèmes associés aux relations amoureuses et à la sexualité. En rencontre individuelle ou en petit groupe, ils sont capables de se livrer s'ils ont confiance, assure Jean Wedd-Carlin. Orlando Seed et lui constatent aussi que si la maison d'Haïti est un espace sécuritaire pour ces garçons, ceux-ci sont bien conscients que les règles du jeu changent lorsqu'ils se trouvent à l'école ou au parc, où la pression de se conformer est forte. En cherchant à détricoter les stéréotypes de la masculinité dite toxique, le projet GA vise toutefois à diminuer l'écart entre ce que les garçons sont à l'intérieur d'eux-mêmes et ce qu'ils osent afficher à l'extérieur. Entre diversité et stéréotypes. Des initiatives positives comme celle de la Maison d'Haïti, il y en a peu au Québec et peut-être aucune autre, selon Philippe Roy. Or, nombre d'ados et de garçons d'aujourd'hui y trouveraient peut-être leur compte. Nos jeunes garçons sont beaucoup plus ouverts à l'expression des émotions que les plus vieilles générations, dit Gilles Tremblay. Le chercheur, aujourd'hui à la tête du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, estime que les gars d'aujourd'hui ont accès à une plus grande diversité de modèles. Les démonstrations d'affection physique dans les amitiés masculines seraient plus courantes et la présence de couples gays est courante dans bien des environnements, dit-il par exemple. On a beaucoup de jeunes qui vont bien, ajoute le chercheur, et qui développent d'autres modèles de masculinité. L'affirmation d'une identité masculine en dehors de la norme demande de faire une démarche personnelle, précise-t-il toutefois, ce qui ne va pas de soi puisque les gars ont toujours été habitués à chercher des modèles tout faits. Quel modèle de garçon a-t-on dans les dessins animés ou les jeux vidéo? Pas beaucoup de garçons tendres et attentifs. Heureusement, les pères sont maintenant beaucoup plus présents et offrent une autre option, affirme Gilles Tremblay. Il y a encore du chemin à faire en ce qui a trait à la socialisation masculine, en commençant par la sphère familiale. Des parents, même bien intentionnés, perpétuent certains stéréotypes. On favorise encore l'attachement chez les filles et l'autonomie chez les garçons, remarque Gilles Tremblay, ce qui incite ces derniers à chercher une validation de ce qu'ils sont dans leur environnement, les amis ou les modèles médiatiques disponibles. Philippe Roy évoque quant à lui une étude démontrant que les parents réagissent aux comportements jugés non conformes au genre précisément selon le genre de leur enfant. Les parents sont plus mal à l'aise quand c'est un garçon qui a un comportement jugé non conforme au genre. Cet inconfort est aussi plus grand quand le parent est un papa, résume-t-il. Bref, le sentier menant à la masculinité demeure très étroit pour les garçons. Il y a des gens qui disent qu'avec les histoires de diversité de genre, les gars ne savent plus être des hommes. Les études disent que, au contraire, quand le contexte social permet une plus grande diversité dans l'expression de la masculinité, les hommes sont moins à risque. Ils n'ont plus besoin de se prouver qu'ils sont des hommes au point de se faire du mal, souligne encore Philippe Roy. Dire aux gars qu'ils peuvent s'inspirer de qui ils veulent, ça fait aussi partie de la diversité. Il faut emmener la discussion entre nous, entre les gars. On entend souvent dire que les hommes ne parlent pas. La presse en a convié trois pour parler de masculinité. Qui sont-ils? Joseph Rindon, 22 ans. Il est né et a grandi à Montréal. Il a repris cette année des études universitaires en sciences de la gestion après avoir fait une pause post-cégep. Joseph Saranès, 25 ans. Il est né et a grandi à Wendake, communauté Huron-Wendat, enclavée dans la ville de Québec. Il se consacre à sa musique, qui amalgame ses racines autochtones et africaines. Marc-Antoine Lemay, 24 ans. Il est né et a grandi à Shawinigan, mais est désormais établi à Montréal. Il travaille pour un centre d'intervention pour hommes agressés sexuellement. Les gars et l'école. J'avais beaucoup de problèmes avec l'autorité. Je n'étais pas méchant ou whatever, c'est juste que quand on demandait de faire quelque chose, je faisais souvent le contraire ou je remettais les choses en question. J'étais vu comme un tannant, se souvient Joseph Rendon. Joseph Sarenès se reconnaît un peu dans ce portrait. J'avais vraiment l'impression que l'école, ce n'était pas fait pour moi. Pourtant, il y a des matières que j'haïssais à l'école avec lesquelles je suis tombé en amour par moi-même après, dit-il. On est souvent vu comme des éléments turbulents, comme incapables de se concentrer, alors qu'il y a peut-être autre chose. Une envie de créativité, un besoin de dépense physique. Convaincu qu'il avait un TDAH, plusieurs enseignants ont incité ses parents à le faire diagnostiquer afin qu'il soit médicamenté. Mes parents n'ont jamais voulu. Tous les gars de ma classe étaient diagnostiqués, croit-il se rappeler. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. En quête de modèle. Moi, je n'en avais pas de modèle, sauf peut-être des figures fantaisistes dans des films ou des BD, dit Joseph Sarenès. J'avais l'impression que tous les hommes autour de moi étaient critiqués d'une manière ou d'une autre. Du côté africain de ma famille, j'ai beaucoup de ce que j'appelle des Africains durs, des hommes très renfermés, qui ont été éduqués en se faisant dire que les hommes, ça ne pleure pas. Ils étaient critiqués parce qu'ils n'étaient pas capables de s'ouvrir. Puis, il y avait aussi, autour de moi, des gars qui avaient une facilité à exprimer leurs émotions et eux, on les traitait de noms, on leur disait qu'ils étaient moins masculins. C'était dur de se situer là-dedans. Marc-Antoine se rappelle avoir connecté avec un enseignant de cinquième année, le seul homme qu'il a eu comme professeur. Je ne sais pas si ce qui m'a rejoint, si c'est parce que c'était un homme ou sa passion pour l'histoire, souligne-t-il. Moi aussi, j'aimais l'histoire. Vous écoutez « Devenir un homme », un dossier d'Alexandre Vigneault et Léa Carrier, paru le 5 mai 2024 dans La Presse. L'empreinte du père. Joseph Sarenès laisse échapper un grand soupir. Il a idéalisé son père lorsqu'il était enfant. Puis, on se rend compte que nos pères, comme tous les hommes, ont des défauts, dit-il. Je pense que mon père a été un modèle pour certaines choses, mais pas un modèle complet. J'essaie d'aller chercher une parcelle de ce qui m'inspire chez chaque homme que je rencontre pour me construire l'homme que j'aspire à devenir. En grandissant, j'ai commencé à avoir une meilleure relation avec mon père, plus intime, dit pour sa part Joseph Rendon. Jeune, il était plutôt attiré par le côté rebelle des rappeurs qu'il aimait écouter. Les relations avec les femmes. Je me tenais beaucoup avec les filles au primaire. J'avais plus de difficultés à connecter avec les garçons, se rappelle Marc-Antoine. Il me semble qu'il y avait même eu des interventions de la part du milieu scolaire comme si ce n'était pas normal que mes amis soient surtout des filles. Je ressentais aussi une pression d'aller jouer au soccer alors que ça ne m'intéressait pas. J'ai l'impression que j'ai toujours eu des relations un peu superficielles avec les filles. Il y en avait dans mes groupes d'amis à l'école, mais je n'avais pas de vraies amitiés avec elles, songe Joseph Rendon. J'étais un peu le contraire de Marc-Antoine. J'étais plus soccer et hockey, je faisais plus des trucs de gars. J'avais peut-être plus de misère à aller dans l'intimité. Joseph Sarenès a surtout vécu avec sa mère, entouré de femmes. Il juge que ça l'aide beaucoup à connecter maintenant avec les femmes. Il a des amis qui sont dans sa vie depuis longtemps avec qui c'est simple. Ses relations plus récentes restent plus en surface, dit-il, en raison de l'ambiguïté qui peut exister si l'un ou l'autre ressent une attirance. Hashtag MeToo. Je pense que Hashtag MeToo était un mouvement très important. Une belle étape sociale et je pense qu'on n'en a pas eu assez. Je pense que ça ne s'est pas rendu au locker room, dit Joseph Sarenès. ça ne s'est pas rendu assez loin dans la tête des garçons. Moi, je n'ai pas vu de différence. J'étais encore dans l'équipe universitaire de basket, et c'est vrai que c'est un endroit où les gars vont se laisser aller à la masculinité toxique, justement entre garçons. Je trouve qu'il était plus que temps que ça arrive et qu'il faut emmener la discussion entre nous, entre les gars. Ils regrettent que les hommes soient souvent exclus de la discussion sous prétexte qu'ils ne savent pas ce que c'est que de se faire harceler. Ils croient néanmoins que les hommes doivent être mieux outillés pour être de meilleurs alliés. On va arriver quelque part quand les hommes d'aujourd'hui vont avoir les outils pour éduquer les garçons qui seront les hommes de demain. Je suis d'accord avec ce que Joseph dit, mais je trouve que ça montre aussi qu'il y a un problème de communication, par exemple dans les relations sexuelles avec les filles. Des fois, c'est un vrai manque de délicatesse. Il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues de n'avoir rien fait de mal, dit Joseph Rendon. Ça montre l'importance de communiquer, de demander à l'autre « Est-ce que t'es sûr? » Une oreille pour se confier? Quand on leur demande s'ils ont quelqu'un à qui se confier dans leur entourage, le malaise est palpable. La question est accueillie par un long silence. « Pas vraiment », finit par dire Joseph Sarenès. « Avec certains amis, j'y arrive parce qu'on s'est justement parlé de ça. On s'est dit qu'on n'avait pas d'espace où être vulnérable sans se sentir jugé. On a fait l'exercice consciemment. Sans ça, non. Je n'ai personne avec qui je peux atteindre le niveau de vulnérabilité qui pourrait me faire du bien. » Joseph Rendon non plus la personne avec qui il se sent vraiment intime. « Même dans mes relations amoureuses, dit-il. Je trouve que je n'en ai pas assez, mais j'en ai. J'ai ma psychologue, mais en relations amoureuses aussi, j'ai une grande facilité à m'ouvrir, à être vulnérable, à communiquer, dit Marc-Antoine. Il y a aussi quelques amis gars avec qui c'est possible, mais il reste un peu sur ses gardes. Plus jeune, ses amis et lui arrivaient à avoir des discussions intimes après avoir pris de l'alcool. » Sans casser cette gêne-là, dit-il, on n'aurait pas été capable. Joseph Sarenès pense que la peur d'être jugé empêche les garçons de se confier. On a peur d'être vu comme autre chose que ce qu'on veut que les autres voient de nous. En société, on nous demande d'être quelque chose, qu'on agisse d'une certaine manière en tant que garçon, mais on n'est pas ça. On essaie de l'être, songe-t-il. S'ouvrir, ça veut dire aux gens « Regardez, je ne suis pas aussi bon que je le laisse paraître. Ça prend beaucoup de confiance pour faire ça. » La masculinité toxique. L'association entre masculinité toxique et les injonctions du genre « Les gars ne pleurent pas, ils doivent être forts » se fait immédiatement dans la tête des trois jeunes hommes. Ah oui, définitivement, ça existe à divers degrés, estime Joseph Rendon. Il donne l'exemple de l'homme toujours en contrôle qui doit faire de l'argent, s'occuper des gens autour de lui et ne pas avoir peur. Joseph Sarenès trouve par contre que l'expression est utilisée un peu à toutes les sauces maintenant. Il admet qu'il y a des comportements toxiques, des jugements toxiques, comme le fait de considérer qu'un autre homme n'est pas assez masculin, mais il trouve qu'il y a une confusion qui incite à croire que des valeurs comme la force et le courage sont forcément négatives. Il faut faire attention avec ces termes-là, pense-t-il. On les lance aujourd'hui à gauche et à droite, et des fois, ce n'est pas vraiment justifié. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de masculinité toxique, dit toutefois Marc-Antoine. Je pense que c'est présent dans les réseaux sociaux plus que dans la vraie vie. Quand je vois des Andrew Tate, moi, ça m'inquiète. Il songe qu'un ado qui se cherche ou qui vient de vivre un échec amoureux peut facilement être attiré par une recette toute faite, empreinte de misogynie. Vous écoutez « Devenir un homme », un dossier d'Alexandre Vigneault et Léa Carrier, paru le 5 mai 2024 dans La Presse. La place des hommes. Est-ce que vous avez l'impression que les hommes sont mis de côté dans la société? Un peu, dit Joseph Rendon, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est difficile de se plaindre. les hommes prennent beaucoup de place dans la société. On ne parle pas assez du calvaire des hommes, croit pour sa part Joseph Sarenès, qui pense que les femmes et les hommes devraient évoluer une main dans l'autre. Marc-André est d'accord. Les féministes nous invitent au contraire à prendre la parole, dit-il. On a beaucoup à apprendre d'elles. Il faut oser et prendre la parole. C'est aux hommes à prendre l'initiative. Ce qu'ils auraient aimé qu'on leur dise à l'adolescence. J'imagine qu'on me l'a dit. Mais que c'est rentré par une oreille et que c'est ressorti par l'autre. Mais c'est de me remettre en question, dit Joseph Rendon. De me demander quel genre de personne je veux être, quelles sont mes valeurs. Marc-Antoine, lui, aurait aimé qu'on l'aide à normaliser les inévitables émotions négatives qui surviennent dans la vie et qu'on l'incite à se confier. J'ai mis trop de temps avant d'aller chercher de l'aide psychologique, dit-il. Je ne suis pas en grande détresse, mais ça fait du bien de parler de ce que je vis. On n'a pas besoin d'avoir des idées noires pour aller consulter. Une des choses que j'aurais aimé, c'est d'avoir de l'encouragement venant de modèles masculins. Quand je suis confronté à un choix, je m'imagine avoir un fils et je me demande s'il serait fier du choix que je fais. Je me demande si ce que je vais faire représente le père que j'aurais voulu avoir et l'homme que je veux devenir, dit Joseph Sarenès. Je tends vers ce modèle-là. Ça m'aide beaucoup. Et, la plupart du temps, ça me fait changer de choix. Comment vont les garçons? Si certains indicateurs, comme le taux de diplomation des jeunes hommes, montrent une progression au cours des dernières années, d'autres, comme la taille de leur groupe social, sont plus inquiétants. Une bonne santé mentale, mais un peu moins d'un tiers, 32 % des contacts faits par les garçons vers tel jeune portent sur la santé mentale. C'est 9 % de moins que dans l'ensemble de la clientèle du service destiné aux jeunes de 12 à 20 ans. La gestion des émotions difficiles est la raison principale de la prise de contact chez les adolescents. Les garçons du secondaire sont légèrement plus nombreux que les filles à avoir une santé mentale florissante. 51 % pour eux et 44 % pour elles. Diplomation en hausse. Les garçons sont moins nombreux que les filles à terminer le secondaire et, par conséquent, moins nombreux à entreprendre et à terminer des études supérieures. Or, le taux de diplomation et de qualification des garçons a connu une hausse importante ces dernières décennies. Il est passé de 63,1 % pour la cohorte de 1998-1999 à 80,1 % pour celle de 2015-2016. Les filles dominent à 88,4 % pour cette dernière cohorte, ce qui correspond à une augmentation de 10 points de pourcentage. Moins suicidaires, mais plus violents que les femmes. Le taux de suicide chez les hommes et les adolescents a constamment diminué depuis 24 ans au Québec. Les adolescents de 12 à 17 ans constituent toutefois le groupe d'âge présentant le plus haut taux d'auteurs présumés d'infractions sexuelles et d'agressions sexuelles. La majorité, 73 % des suspects d'homicide ou de tentative de meurtre au Québec, étaient de jeunes hommes de 16 à 35 ans. Une proportion similaire des victimes appartenait au même groupe. La majorité, 60 % des meurtres au Québec, sont attribuables au groupe criminel. Consommation maîtrisée. Au Québec, 94 % des élèves du secondaire n'ont pas de problème évident de consommation de drogue ou d'alcool. La consommation d'alcool n'a pas d'effet significatif sur l'indice de santé mentale de la majorité des garçons, sauf ceux du premier cycle du secondaire. Ceux qui consomment du cannabis ou du cannabis et de l'alcool sont toutefois considérablement moins nombreux à avoir une bonne santé mentale et l'écart est marqué chez les élèves de première secondaire. 55 % des non-consommateurs ont une santé mentale florissante contre seulement 32 % chez les polyconsommateurs. Un cercle social qui rétrécit. De récentes études tendent à démontrer que le cercle social des hommes se rapetisse. Aux États-Unis, 27 % d'entre eux déclarent avoir au moins 6 amis proches, deux fois moins qu'il y a 30 ans, 55 %, selon un sondage du Survey Center on American Life. Pire, 15 % d'entre eux disent n'avoir aucun ami proche, soit 5 fois plus qu'en 1990. Chez les jeunes hommes, 60 % se déclarent célibataires, une proportion deux fois plus grande que chez les jeunes femmes. Ils ne recherchent pas non plus le même genre de relation. Les hommes sont plus nombreux à se dire ouverts à des relations occasionnelles. De grands consommateurs de porno. Au Québec, 68 % des adolescents âgés de 14 à 18 ans regardent à l'occasion de la pornographie selon un récent sondage. Chez les garçons, la proportion monte à 85 %. Violence sexuelle, la loi du silence. La parole des hommes victimes de violences sexuelles pendant l'enfance demeure taboue. Malgré le mouvement #MeToo, ils mettent en moyenne 20 ans avant de commencer à en parler. La moitié d'entre eux ne s'ouvrira jamais, selon une étude menée par la professeure de l'UQAM, Natacha Godbout. Moins à gauche qu'elle. L'écart idéologique entre les jeunes hommes et les jeunes femmes se creuse depuis quelques années. Au Québec, les hommes dans la vingtaine sont restés relativement au centre, alors que les femmes dans la vingtaine sont de plus en plus à gauche idéologiquement, selon les résultats de la dernière étude électorale canadienne. En 2021, l'écart idéologique entre les genres était presque deux fois plus élevé chez les jeunes, 0,83, que dans la population générale, 0,49. Le phénomène n'est pas unique au Québec. La même tendance s'observe notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Stagnation au travail. Le taux d'emploi des hommes est relativement stable au Québec depuis 20 ans. En 2022, il était de 64,8 % contre 58,3 % chez les femmes. Statistique intéressante. Aux États-Unis, les femmes célibataires sont plus nombreuses à posséder une propriété que les hommes célibataires. Selon le Pew Research Center, elles possèdent 58 % des logements appartenant à des Américains célibataires. C'était « Devenir un homme », un dossier d'Alexandre Vigneault paru le 5 mai 2024 dans La Presse.